Jusqu'à 20h, vous écoutez Parlons-nous santé.
La parole est à vous.
Avec la docteur Christiane Laberge.
Au réseau Cogeco.
Bonsoir. On est tellement content d'être revenu parmi vous parce qu'on s'est absenté à notre corps défendant. Hockey oblige. Mais Parlons-nous santé est de retour et on est là pour vous écouter, pour vous entendre. Je suis médecin de famille. Je suis en compagnie de mon collaborateur Maxime Lachance. Et en coulisses, on a Mario, bien sûr, qui nous aide aussi à mettre en son tout ce que vous allez nous dire. Alors, ce soir à l'émission, on va parler, c'est le mois du TDAH. Alors, on va parler du TDAH, mais avec une version féminine. Et là, les gars, allez-vous-en pas, parce que vous vivez dans des familles où il y a à gérer du trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, diagnostiqué ou pas. Et ça, c'est le bout encore pire. Et là, arrêtez de me dire que je suis financée par les pharmas, là. Non, c'est un traitement multimodal. Mettre une paire de lunettes dans le visage de quelqu'un ne va jamais lui apprendre à lire, ne va jamais lui apprendre à tourner les pages, puis comment fonctionner avec un livre ou avec un ordi. Alors, c'est un outil, mais c'est juste un outil. Alors, le diagnostic, c'est plus que ça. Le traitement, c'est plus que ça. Et on va parler de ça. Maxime, tu as des statistiques assez effarantes. Hein?
Ben, quand on a choisi le sujet, je me disais, OK, au féminin, pourquoi? Puis là, on regarde les statistiques, c'est assez frappant. On en parlait avant l'émission. Ouais. Je pense que la statistique qui m'a le plus frappé, c'est le taux de suicide. En fait, de tentative de suicide chez les femmes canadiennes qui sont atteintes de TDAH, c'est 1 sur 4. Ouais, même... C'est 24%.
Alors que chez les gars, c'est autour de 13%, puis 9% chez les êtres ordinaires, entre guillemets, qui ne sont pas porteurs. Donc, c'est une grosse statistique.
Et chez les femmes qui ne sont pas diagnostiquées, en fait, qui n'ont pas de TDAH, c'est 3% seulement de tentatives de suicide. Oui. C'est vraiment là. Et on dit que la moitié des jeunes adultes atteints de TDAH avaient souffert d'un trouble lié à l'abus de substances au cours de sa vie. Donc, il va avoir aussi l'abus de substances. On nous dit aussi que 46 % des femmes avaient reçu un diagnostic erroné.
Tout à fait.
Donc, diagnostic erroné, ça nous fait perdre quoi? On disait dans l'étude 2 décennies.
On disait que ces femmes-là étaient diagnostiquées souvent comme anxieuses, anxiété généralisée. On les traitait comme telles avec des succès mitigés ou allaient dans le trouble dépressif ou le trouble de personnalité limite. Alors, il y avait plein de diagnostics qui étaient émis et quand on regardait bien comme il faut, malheureusement, les tests qu'on a besoin pour pas diagnostiquer, mais pour dépister et peaufiner les diagnostics, ne rendent pas le côté féminin en avant. C'est le petit gars qui saute sur sa chaise, qui interrompt les autres, qui est fatigant, qui est tannant, qui dérange. Ça, c'est rapidement enligné du côté de l'évaluation, mais parce qu'ils sont dérangeants. La petite fille qui est en arrière, qui, elle, bouge pas trop parce qu'elle est complètement inattentive, elle a 36 idées avant le premier café, mais c'est dans sa tête. La petite fille, elle veut se conformer parce que l'aspect social est en général... Le petit gars, il va plus s'en foutre, puis la petite fille... C'est très important d'être reconnu comme les autres, de faire son effort. Elle va travailler vraiment comme un diable dans l'eau bénite pour arriver à un succès mitigé. Elle va passer pour la nounoune de service parce qu'elle est capable de fournir du 90, mais elle va oublier de tourner la page, puis elle va pas répondre à 2 questions, puis elle va perdre ses points. Tout ça va faire qu'elle va être victime d'abus, elle va être intimidée, et même au niveau des abus sexuels, elle va, si elle a une forte diminution d'estime de soi, de confiance en soi, le beau parleur, le beau faiseur, il va-tu te la mettre dans sa poche bien comme il faut? Et elle est souvent victime d'abus physiques et d'abus sexuels.
Parce que la personne va valoriser. Exact. Elle va aller vers cette personne-là, lui faire confiance.
Et comme elle est aussi impulsive quand même, donc elle va avoir des relations sexuelles souvent plus jeunes, 38 % de grossesse adolescente, alors que 4 % chez celles qui ne sont pas porteuses.
Les chiffres sont vraiment d'un extrême à l'autre quand on regarde ça.
Ils sont très importants. Et il faut regarder quand on a une adolescente enceinte avec une grossesse non planifiée, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on le sait ce qui s'est passé, mais pas ce détail-là qu'on veut. Là. C'est les autres détails autour. Alors, c'est un peu pour ça qu'on va regarder ça ensemble et on va regarder si on ne peut pas aider les gens ce soir à regarder un peu, observer un peu et peut-être les amener vers un diagnostic, si c'est le cas. On va pas mettre tout le monde aux médicaments, là, énervez-vous pas. Mais souvent, quand tu as beaucoup d'anxiété généralisée, quand tu as de la dépression, tu es souvent traité avec des pilules. Est-ce que ce sont des pilules qui répondent à tout? Peut-être qu'il y a d'autres médicaments qui répondraient mieux. À suivre.
Et on le disait, la médicamentation, ça, c'est un outil dans le coffre.
Tout à fait.
Parce que le traitement...
multimodal.
Et on le disait aussi, les hommes, appelez-nous, les maris, les
oui,
chums,
les, fils.
Les enfants, les fils,
oui.
les femmes, évidemment, parce qu'on en parle au féminin aujourd'hui. Numéro de téléphone pour nous joindre, pour parler avec nous, pour vous joindre à la discussion. À Montréal, c'est le 514-790-9850. Partout au Québec, le 1-866-790-9850. Le texto également, 98985.
Et soyez pas gênés, parlez-en, donnez un faux nom, c'est pas grave, on est prêt à accepter ça quand vous voulez. Et l'autre chose aussi, il faut pas oublier qu'on va faire une petite mise au point tout de suite. Il y a des gens qui vont certainement nous demander pourquoi on parle pas de Carrie. Bien, on n'en parle pas parce que je suis pas un docteur 5 minutes, d'abord. Et parce que avant de poser un diagnostic, j'ai entendu plein de diagnostics, c'est un burn-out, c'est ici, c'est ça. Il faut savoir de quoi on parle et ça demande un examen, ça demande un questionnaire, ça demande une évaluation, ça demande des hypothèses diagnostiques, un traitement et un suivi. Donc, s'il vous plaît, on n'a pas les éléments. Puis même s'il allait sur la place publique puis il disait « j'ai de l'insomnie, puis j'étais triste », vous n'avez pas le droit d'émettre de diagnostic. Arrêtez de jouer au docteur de ce côté-là. Pas parce que je veux garder ma licence, pas du tout. Mais c'est parce qu'on parle à travers notre chapeau et on peut faire beaucoup plus de dommages que de bien. Marie-Josée, bonjour! Ou bonsoir.
Bonjour, on est le soir. Oui, on est le soir. C'est vrai, on est le soir. En premier lieu, je voudrais juste dire que je suis vraiment contente de vous parler.
Bien, merci.
Puis, merci d'être revenue. Je trouve ça bien intéressant. Moi, j'ai pas honte de le dire. Fait que je dis vraiment mon nom. Moi, je me reconnais dans tout ce que vous avez dit. Je vais avoir 52 ans dans un mois. Mm-hmm. Il y a seulement un an et demi que j'ai été diagnostiquée.
Et qu'est-ce que ça a eu comme impact pour vous dans votre vie entière?
Ben, ça en a eu toute une, parce que quand j'ai téléphoné en urgence, en pleurant, la secrétaire de mon médecin, j'ai dit, il faut que je parle à mon médecin, ça fait des semaines, je suis déjà, je veux me suicider, si vous m'aidez pas cet après-midi, en tout cas, c'était le branle-bas de combat, puis ils m'ont téléphoné, puis tout. Moi, j'ai expliqué à mon médecin, j'ai dit, écoute, j'ai des antidépresseurs, tu me prescris des antidépresseurs. J'ai rien contre mon médecin,
il me suit
vraiment bien, là. C'est pas ça. J'ai de la misère avec la molécule que j'ai présentement, le Concerta. Fait que je sais pas comment on fait pour savoir si on augmente ou on augmente moins. Tout pour dire que, j'avais beaucoup d'antidépresseurs. J'ai des antidépresseurs depuis une trentaine d'années. Moi, j'ai dit, écoute, je dirais pas son nom, je pense que moi, ça va pas. Trouve-moi qu'est-ce que j'ai. Trouve-moi psychologiquement, j'ai quelque chose. C'est sûr, j'ai quelque chose. Tout le monde me dit tout le temps, mon conjoint vient de me quitter. Marie, t'es trop généreuse, t'es trop aussi. J'étais tannée d'être trop, là, j'ai dit, là, quand tu dis que t'es sur le bord du suicide. Elle me dit, ben, Marie, on te donne des c'est parce que t'es anxieuse. Fait qu'on te donne des antidépresseurs pour ton anxiété. Ouais, mais c'est parce que c'est moi qui m'énerve, là.
Je m'énerve. Ça, on entend ça souvent chez les femmes. Je m'énerve moi-même.
Oui, je suis plus capable. Je veux plus vivre comme que je suis. Je suis plus capable. Je suis plus capable de suivre. Je suis plus capable d'être comme ça. Je suis plus capable d'avoir des tocs, d'essayer d'être parfaite.
Voilà.
Je suis plus capable.
Voilà.
Fait que là, elle dit, bon, OK, Marie, on va réaligner parce que là, vu que j'allais pas bien puis que j'étais vraiment dans une grande dépression, ben, j'avais arrêté mes antidépresseurs, mes pilules pour la glande thyroïde. Fait qu'on a tout remis ça à zéro. Après ça, quand tout a été comme un petit peu mieux avec 5 personnes qui m'appelaient par semaine, le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, tout ça, j'ai eu le diagnostic.
OK.
J'étais tellement fière, puis une des travailleurs sociales qui m'avait parlé au début, elle m'a dit « Pourquoi vous voulez savoir exactement ce que vous avez? » Ben c'est parce que il faut que je le dise. Je veux le dire à quelqu'un. Fait que finalement, je suis capable de le dire « Oui, mais c'est parce que je suis TDAH, je suis pas juste trop. » C'est à cause de ça. C'est à cause de ça que j'ai rempli mes horaires. C'est à cause de ça.
C'est ça.
Mais là, le concert, là, je prends encore, justement, mon médecin, on va avoir une rencontre dans 2 semaines. J'ai essayé pour le début Concerta.
Quelle quantité? Combien de milligrammes?
Là, je suis rendue à 54. On a commencé par 18.
Okay.
Et quand j'ai fait le 18, 27, je pense.
Oui.
27, 36.
36.
Bon, au début, j'ai vu comme, aïe, aïe, on dirait que j'avais, ouais, ça, j'étais plus enlignée, tout ça. Là, je suis rendue à 54, mais j'ai encore de la misère à lire des livres, je perds encore beaucoup mes clés. Fait que là, je sais pas, est-ce que c'est une mauvaise, pas la bonne molécule pour moi, ou faut que je continue
j'aime
à augmenter.
Tellement ça. Mais on va croire que je vous ai appelé avant.
Non,
je le sais. Mais
non, mais je vous le dis, je suis tellement contente de vous parler sérieusement parce que vous êtes hors de mon, tu sais, de ma vie. Là, fait que vous pouvez dire ce que vous
en
pensez.
En fait, la chose qu'on demande, c'est que c'est clair que ça va pas vous aider à trouver vos clés. Par contre, ça va vous aider à aller sur des sites comme par exemple la Fondation Philippe Laprise. Je vais vous en parler tantôt. Vous allez aller sur Attention Déficit Trait d'Union Info.
Com,
et vous allez aller voir les trucs pour les adultes. Et il y a des trucs que quand on est traité, on est capable d'adopter ces moyens-là qui nous ressemblent. Que quand vous n'avez pas de médication, vous avez de la misère à focusser. L'autre chose, c'est que ces sites-là, ces deux sites-là, il y a plus de vidéos que de lectures. Parce que la lecture, on a de la misère quand on a un TDAH à rester assis puis de lire le début de la ligne à la fin de la ligne. Alors qu'un vidéo, c'est en général, surtout s'ils sont courts et punchés, vous allez avoir plus de facilité et vous allez apprendre les moyens. Mais quelqu'un, quand on parlait tantôt de multimodal, vos médicaments ne sont que des lunettes. Ça vous permet d'avoir accès à d'autres choses. Donc, c'est pour ça que les moyens que les psychoéducateurs vont donner à la maison, les routines qu'ils vont vous suggérer, vous allez prendre la routine qui vous convient. Un peu comme on fait avec les enfants. T'aimes-tu mieux te lever, déjeuner, t'habiller ou t'habiller, déjeuner? Alors, on peut choisir, vérifier pour deux semaines ce qui nous ressemble, puis après ça, on adopte ou on rejette, puis on continue de fouiller. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé, Madame Brigitte. Et l'autre chose, c'est que comme porteur de TDAH, on a souvent des gens qui parlent beaucoup. Fait que je vais vous couper ce soir.
Merci, bye bye.
Parfait, bye. Claudia, bonsoir.
Bonsoir.
Oui.
Moi, j'ai 50 ans. J'ai eu mon diagnostic à l'âge de 40 ans.
Ouais.
Grâce à mon fils qui a été diagnostiqué TDAH. Je assistais à plein de conférences, plein de toutes sortes de trucs pour comprendre qu'est-ce qui se passait avec mon fils. Puis, si on recule à il y a 22 ans, ben, c'était pas encore très connu. Puis, il y avait beaucoup de diagnostics de TDAH tout d'un coup. Des trucs aussi qu'on entendait, qu'on donnait ça pour les rendre légumes, puis toutes sortes d'affaires. Fait que moi, j'ai assisté à plein de conférences pour me faire ma propre idée. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que finalement, j'avais comme beaucoup de symptômes. Fait que j'ai consulté, j'en ai parlé avec la pédopsychiatre de mon fils qui m'a dit, ben oui, effectivement, c'est héréditaire. Et non, je me même pas besoin d'investiguer, vous savez, TDAH. Fait que j'ai fait une demande. J'ai consulté, j'ai eu un diagnostic. Je prends du Concerta depuis et ça a vraiment changé ma vie.
Racontez-moi donc ça, comment ça a changé votre vie?
Premièrement, moi, alors, j'ai eu mon permis, j'avais 16 ans. À l'âge de 20 ans, j'avais perdu 4 fois mon permis de conduire. Et me perdais dans mon propre quartier où j'ai toujours habité.
OK.
Après avoir vu tout le monde... Puis là, ben, on a toujours dit de moi que j'avais aucun sens de l'orientation. Mm-hmm. Depuis que je suis médicamentée, je me retrouve partout. J'ai un tellement bon sens de l'orientation. C'est incroyable. Et je n'ai plus une seule contravention depuis.
Donc, c'est très important parce que vous avez raison. Les accidents sont 4 fois plus fréquents et sont 3 fois plus graves. Donc, vous avez tout à fait raison que... Quand on traite un porteur de TDAH et qu'il apprend à se donner des moyens pour rester sur la route, et un des moyens, c'est de ne pas avoir comme adolescent ou en tout cas comme jeune adulte 4 autres personnes autour de lui, que chacun fait le cave puis compte des blagues puis etc etc. Ça c'est pas une bonne idée pour un porteur de TDAH très jeune. Alors oui, on a des petits problèmes avec ça. Alors, vous êtes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients que vous avez contournés?
Ben oui, je tapais sur les nerfs parce que je bouge toujours, je parle toujours. J'ai 56 millions d'idées à la fois, puis je veux faire plein de projets. Et, je tapais sur les nerfs, ben maintenant, j'arrive plus à focusser. C'est sûr qu'à sortie, ben, la médication fonctionne plus, fait que je suis un peu moins focus puis je parle plus, puis je suis un peu plus étourdissante. Mais j'ai toujours été étourdissante. À l'âge de 7 ans, en deuxième année, j'avais plus le droit de prendre l'autobus scolaire, je me battais toujours, je me chicanais avec tout le monde, je dérangeais le chauffeur, en classe, c'était la même chose, j'étais toujours en retenue. J'avais plus le droit de dîner à la cafétéria, fallait que je dîne toute seule en petit escalier avec un petit bureau.
Et qu'on s'entend qu'au niveau de l'estime de soi, vous deviez être solide en tabarouette pour passer à travers de tout ça. Puis aussi avec les symptômes aussi grands que vous aviez. Alors, puis maintenant, ça doit être quand même plus facile d'encadrer votre fils. Ça a dû aider aussi à la maison, à organiser, à prendre soin. Ça a dû diminuer ce qu'on appelle la charge mentale qui devait être épouvantable quand même à certains moments, non?
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, mais à l'époque, ça n'existait pas. On ne connaissait
ben
pas.
Ben non, vous avez raison.
Mais ma mère, je me rappelle, à 7-8 ans, m'avait fait rencontrer un psychologue pour dire écoutez, ça va pas du tout, j'ai des problèmes avec elle.
Ouais.
Elle m'avait fait évaluer.
Tout à fait. Et c'est pour ça, malheureusement, vous me mettez presque les mots dans la bouche, parce que malheureusement, les filles ont souvent moins de symptômes explosifs que les gars, bien que vous en aviez, mais moins de symptômes explosifs, et c'est comme ça qu'on passe un peu sous le radar. Alors, je vous remercie beaucoup, Claudia. Très beau témoignage et on va devoir aller en publicité. On se revoit tout de suite après la pause, 790-9850 dans le 514 ou dans le 1-866 et les textos 98985.
Des symptômes au remède. La docteure Christiane Laberge aborde avec vous la santé sous tous ses aspects. Parlons-nous santé.
Au réseau Cogeco.
Rebonjour. Alors, ce soir, on a une discussion à propos du TDAH au féminin avec des impacts très importants. Et on regarde ces impacts-là. Les gars, on le sait que c'est très important aussi comme problématique, mais les gars sont souvent plus symptomatiques, évidents. Les femmes le sont moins. Elles sont plus inattentives. Ils ont une prédominance inattentive. Elles ne sont pas nécessairement... Et là, on va tout de suite mettre ça, là. On parle de TDAH et non pas de TDA. Les gens disent « Ah, moi, j'ai un TDA, ça a toujours l'air moins pire qu'un TDAH. » Mais quand vous cliquez votre crayon, quand vous faites les dodules dans la marge, quand vous écrivez tout le temps pour vous garder concentré, quand la petite jambe branle en dessous de la table, ce sont les cheveux, les couettes qui tournent, les ongles qui se rongent parce que tu n'as rien à faire, ça peut être des signes d'hyperactivité fine. Mais c'est de l'hyperactivité pareille. D'avoir 25 idées avant le premier café puis d'avoir de la misère à faire le tri, c'est de l'hyperactivité intellectuelle et c'est une forme d'hyperactivité. La femme qui a 4 emplois en même temps, qui ne saute pas sur sa chaise, mais elle en fait beaucoup trop en même temps, elle n'est pas capable de prioriser, ça peut être un symptôme de TDAH aussi.
Ou est-ce que ça se peut que des fois, il commence une tâche et ne termine pas?
Oui! Parce
ou en commence trois, mais ils en finissent pas une.
C'est comme la construction à Montréal, ça? alors, oui, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que dans un emploi, là, t'as 80 % en général de passion, de plaisir, t'as 20 % wesh. Ben, quand ils sont dans la phase plaisir, là, ça opère en tabarouette. Mais quand ils arrivent dans la finition, dans le bout plate, dans le budget, par exemple, si ça les intéresse pas...
On garde ça pour la fin. Hein?
Ils vont procrastiner et ils peuvent perdre au niveau de leur crédibilité, parce qu'ils finissent pas la tâche. Donc, oui, ça peut être la procrastination classique du TDAH adulte.
Autre question.
Oui.
Je parlais avec quelqu'un qui voulait pas vous parler en onde, qui disait que lui avait été diagnostiqué à 50 ans et aurait aimé ça que ce soit diagnostiqué avant. Là, la question que je me suis dit, le TDAH, on connaît ça depuis quand?
1903. Ça a été décrit par Still, S-T-I-L-L, et il avait décrit déjà les symptômes. Après ça, on a eu le minimal brain damage, le petit défaut cérébral. Après ça, on a eu le trouble du déficit de l'attention, et c'est resté l'hyperkinésie, etc., etc. Donc, on a eu des mots différents, mais ça a été décrit dans tous les livres de diagnostic qu'on appelle le DSM. Et à ce moment-là, jusqu'au DSM-5, où on a rajouté dans le DSM-5 la labilité émotive, qui n'était pas tout à fait dedans, on a rajouté que c'est à partir de 12 ans, Il faut que ce soit quelque chose de continu dans le temps. C'est pas un enfant qui, depuis 3 mois, pète sa coche puis il a 12 ans. C'est un enfant qui a eu des symptômes de TDAH, théoriquement depuis l'âge de 7 ans. Mais, te rappelles-tu comment tu étais à 7 ans? Moins. On se rappelle, quand on est adulte, plus 12 ans. Mm-hmm. Et l'autre chose, mon beau Maxime, c'est que nos maudites hormones féminines jouent un rôle dans l'expression du TDAH. Donc, c'est pour ça que les filles sont sous le radar plus jeunes, souvent. Mais par contre, à 14-15, quand les hormones se mettent à jouer, dans la deuxième partie du cycle menstruel, quand la progestérone monte, la dopamine baisse. Et quand tu as un porteur de troubles de déficit de l'attention, la dopamine, qui est ce transmetteur dans la zone du plaisir, elle est baissée. Donc, les filles vont avoir plus de labilité affective, plus de colère, plus de, entre guillemets, pétage de coche. Et ça peut être attribuable à un TDAH quand c'est présent. Donc, il faut le rechercher.
Alors, c'est pas en bas âge, comme les garçons.
C'est manifesté. Chez les filles, ça va plus se manifester avec le dérèglement hormonal de l'adolescence.
Les circuits sont pleins. Je vais rappeler les numéros de téléphone parce que dès qu'il y a quelqu'un qui raccroche, appelez, il y a un circuit qui va se libérer pour vous. Montréal, 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850. Et texto également parce qu'on lit vos commentaires, 98985 pour nous joindre via texto.
Comme il ne nous reste qu'une minute parce qu'on va être enlevé, pouf! On va être snappé par les nouvelles. Marie et Amélie, s'il vous plaît, restez en onde et on vous prend dès qu'on revient.
Oui, on va venir vous parler. Là, comme je disais, les circuits sont pleins.
Absolument.
Docteur, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent vous parler. J'ai reçu un texto. C'est au masculin, par exemple. On nous dit, mon fils a été diagnostiqué TDAH. Il y a maintenant 6 ans. Jamais je n'aurais pensé que moi-même, je pouvais l'être. Est-ce que l'hérédité?
75 à 80 génétique. À l'université, en Colombie-Britannique, il y avait un professeur qui avait commencé une clinique pour enfants. Elle a ouvert une clinique pour adultes à cause des parents. Comme la liste d'attente était trop longue, ils ont fermé la clinique. Comme ça, les chiffres à l'hôpital étaient meilleurs.
Ouais.
Alors, on voit que des fois, on fait disparaître le problème en faisant « Oups, la trappe! »
Quand on le voit pas, il n'y en a pas.
On le sait pas. Voilà.
Voilà.
Vous écoutez
Parlons-nous santé. Vos questions, vos préoccupations, la docteure Christiane Laberge vous éclaire.
Au réseau Cogeco.
Alors ce soir, on parle de TDAH, mais version féminine, parce que les dommages sont très importants, le retard des diagnostics est aussi très important, donc les conséquences sont lourdes sur la société, la famille et le travail. Donc, Maxime, quelles sont les nouvelles que nous avons de nos auditeurs?
Question.
Oui.
Est-ce que lors de la ménopause, les signes de TDAH peuvent s'atténuer?
Habituellement, moins. À la ménopause, des fois oui, des fois non. Mais je te dirais qu'à la retraite, les symptômes augmentent. Parce que souvent, l'encadrement est diminué. Tu as perdu ta secrétaire, tu as perdu tes obligations, tu as perdu ton agenda fixe, tu as perdu l'encadrement aussi rigide que tu avais quand tu travaillais, les routines. Et il peut y avoir une période de désorganisation. Donc, il y a des gens qui deviennent un peu plus symptomatiques. Il y en a même qui pensent qu'ils font de l'Alzheimer parce qu'ils disent « j'oublie tout ». Et à la ménopause, il y en a qui vont avoir ce symptôme-là très, très fort. En fait, on n'oublie pas, on a juste un délai à la réponse aux questions qu'on se pose. Mais, ceci dit, on a souvent des signes d'inattention. Donc, ceux qui sont porteurs... Mais c'est intéressant ce que tu me poses comme question, parce que la ménopause ne va pas faire éclore un TDAH. Elle va le mettre en lumière. Donc, les symptômes, quand on va faire le relevé au questionnaire, depuis quand vous avez ça, ça va remonter à très longtemps. C'est pas apparu avec la ménopause, mais ça peut être pire à la ménopause et à la retraite chez certaines personnes. Oui, il y a des gens qui pensent qu'ils font de l'Alzheimer, puis on va dire, ben non, finalement, le psychiatre va dire, vous avez un TDAH.
Donc, diagnostiqué sur le tard.
Oui,
il y a beaucoup
exact.
De cas comme ça qui sont justement diagnostiqués sur le tard.
Oui.
Autre texto, bonsoir, je me reconnais vraiment dans la description du docteur Laberge sur les filles TDAH. J'étais tranquille, sage, soumise, victime d'abus sexuels et je n'ai connu que des hommes abuseurs. À 53 ans, une psychiatre m'a diagnostiqué TPL et m'a donné des antidépresseurs qui ne me convenaient pas, alors j'ai arrêté. Et je suis rendue à 58 ans maintenant. Quel est le médicament dont vous parliez plus tôt?
D'abord, on va parler du diagnostic. Alors, tantôt, après Marie et Amélie, on va parler probablement de comment on vient à faire un diagnostic. Et c'est quelque chose d'exhaustif.
Oui, et justement, il y a plusieurs personnes dans les prochaines intervenantes qui veulent justement là, aller vers
ça. On va aller vers
ça. Aller vers la route pour se rendre au diagnostic. J'ai une petite fille de 4 ans, elle a des symptômes de TDAH. Je me sens dépourvu car on me dit que c'est beaucoup trop tôt. Cependant, je réalise qu'elle aurait peut-être besoin de suivi et moi d'aide. Elle doit être constamment stimulée et est très avancée pour son âge. Pourtant, je me sens dépourvu du réseau et de compréhension des autres. Elle n'est pas mal élevée.
Vous avez tout à fait raison. En général, elle peut avoir de la douance. Ça se peut que ce soit un enfant dit surdoué. Ça se peut que ce soit un enfant aussi qui soit porteuse de TDAH, c'est possible. Mais ça demande, chez les petits-enfants en bas de 5-6 ans, ça demande une aide professionnelle, sérieuse, organisée. Et ça demande des outils pour les parents, des psychoéducateurs, des gens qui soient présents. Des fois, souvent, un médecin pédiatre, plus qu'un médecin de famille et un pédopsychiatre en consultation.
Je vous laisse parler avec Marie et Amélie. Je veux juste rappeler les numéros de téléphone. Là, les circuits sont pleins, mais dès que ça raccroche, prenez le téléphone. Il y aura de la place. Montréal, 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850. Et texto, ben, on lit tous vos textos. 98985.
Alors, Madame Marie la patiente, bonsoir.
Oui. Bonsoir, je suis tellement contente de vous parler, Madame Laberge. Moi, j'ai été diagnostiquée comme ayant un TDAH à l'âge d'environ 55 ans. Mm-hmm. Mais par la suite, j'ai fait à peu près 3 ans là, de thérapie à Louis H. Lafontaine. Mm-hmm. Et puis, on voulait pas me dire que j'avais le TDAH. Là, on me disait, comme la dame avant moi tout à l'heure, pourquoi vous voulez le savoir? Bien, moi, je disais, c'est parce que je veux aller mieux, je veux me prendre en main, je veux gérer mon problème. Puis après ça, j'ai trouvé un psychiatre qui m'a donné le diagnostic, lui. Mais par la suite, vu ma santé, j'avais fait une dépression par la suite. Puis bon, donc il y a bien des choses qui s'est passé dans ma vie. Je suis rendue à 63 ans. Puis à ce moment-là, mon médecin de famille m'a fait voir un autre psychiatre qui m'a diagnostiqué bipolaire 2. Donc, je suis allée encore une fois étudier tout ce problème-là.
Ouais.
Et à un autre moment donné, on m'a fait encore une fois rencontrer un autre psychiatre. Là, je suis encore avec lui, là, 6 ans plus tard. Puis lui, il est vraiment, il dit peut-être TDAH, mais TPL. Moi, je me vois avec le TDAH. J'ai toujours essayé de garder mes emplois. Très difficile. Je trouve très facilement les emplois. On me prend parce que j'ai les compétences, mais je me sabote. Difficile à me concentrer. Souvent du bureau, trop de bureau. Les emplois que j'ai gardés, c'était des emplois où je bougeais, où j'inventais, où on me prenait comme projet pilote. Mm-hmm. Mais là, aujourd'hui, à 63 ans, j'ai un emploi. Puis vraiment, là, ces derniers temps, tout ça tombe bien que vous ayez cette soirée-là avec vous, parce que je me sous-estime. Je travaille dans un milieu où il faut prendre des notes. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Je suis obligée d'enregistrer parce que, c'est ça. On se trouve des trucs, la langue, mais ça reste que c'est frustrant. Et là, je pense à quitter pour trouver un emploi où je vais plus bouger.
Quand vous parlez de bipolarité, c'est intéressant parce que il y a un lien qu'on ignore, OK? On ne sait pas quel est exactement ce lien-là, mais on sait qu'on retrouve plus de bipolarité chez les porteurs de TDAH que chez les autres. Et c'est significativement plus élevé dans le décours de la maladie ou le décours de la vie. Donc, il peut y avoir un chevauchement au niveau des diagnostics.
Oui.
Je vous dirais que ceux qui nous aident beaucoup aussi avec les adultes, ce sont les ergothérapeutes de santé mentale dans les départements de santé mentale. Ces gens-là, s'ils sont vraiment des références, peuvent vous aider beaucoup à avoir des outils. Vous pouvez aller chercher des outils, vous y maintenir avec un traitement, avec l'acceptation d'une routine, avec l'acceptation de ce qui vous ressemble comme moyen. Effectivement, il y a plein d'outils électroniques aujourd'hui. On demande toujours aux gens qui ont un TDAH, ça vous prend un agenda papier, un agenda électronique. On essaie de diminuer, vous avez raison, avec les enregistreuses, on essaie de diminuer l'écriture et tout ça parce que on se retrouve plus dans nos notes et on n'est plus capable de, on se perd dans nos affaires. Donc, il y a plein d'outils au niveau du travail.
Les problèmes d'organisation aussi, c'est effrayant. On met un dossier sur l'ordinateur, sur notre Internet.
C'est ça, exactement.
C'est effrayant. Je peux expliquer ça à mes collègues.
Mais je vous avoue que d'avoir des bons coachs, pas les coachs de vie, mais des ergothérapeutes, des gens, parce que l'ergothérapie, c'est la réadaptation au travail. Donc, ces gens-là sont très habilités à vous trouver des moyens et souvent d'investir dans leur assistance. C'est vraiment primordial. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ce sont des gens très, 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 très précieux. Je vous dirais que oui, je vais utiliser les services des psychologues quand on a beaucoup d'anxiété, etc., etc. Mais je me sers beaucoup des services des ergothérapeutes et des psychoéducateurs. Bien, merci beaucoup, Mme Marie.
Je me demandais, dernière question. Ouais. J'avais essayé ça, le Concerta, il y en avait d'autres aussi que j'avais essayé à Bifaire. Bon,
les psychostimulants.
Ouais. Puis ça me rendait encore plus... Hyper. J'étais très... mais aussi très fébrile. Je n'étais pas capable de rester assis.
Il y a une question de dosage, OK? Moi, j'ai réalisé que les enfants, par exemple, quand on a des adolescents, souvent, si on prend l'exemple du Concerta, on va leur donner 54 mg. Autour de l'âge de 18 ans, ils vont arriver, ils vont dire « Ah, moi, je suis assez verte, là, je vais tout arrêter ça. » Et là, on baisse à 27, à 36. On va doser et souvent, chez l'adulte, on a besoin des plus petites doses. Alors, bizarrement, et il faut savoir que 10 à 15 % des gens ne répondront pas à la médication psychostimulante. Alors, il faut garder ça en tête aussi. Oui. Donc, il faut essayer, voir avec vous. Les tests génétiques que vous pouvez avoir, la CADRA, qui est l'organisme qui fait les lignes directrices avec les spécialistes, nous dit que ça ne vaut pas la peine d'aller chercher ces tests-là qui coûtent quand même quelques centaines de dollars. Mais on a quand même une capacité de dire, bon, on essaie erreur, on essaie les dosages et on est encore là-dessus. On n'a pas encore de diagnostic chimique de type prise de sang, radiographie, IRM, qui va nous prouver que vous avez un TDAH. Ces outils-là ne sont pas disponibles encore. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Là, on va passer à Mme Amélie parce que...
Très bien. Je vous remercie
merci beaucoup.
Bonsoir.
Désolée. Mme Amélie, bonsoir, la patiente.
Bonsoir. Si peu patiente pourtant.
Je le sais, c'est pour ça que j'ai dit que vous étiez patiente, parce que j'ai pesé sur votre bouton qui est difficile à garder, hein?
C'est un bel exercice.
Oui.
Voilà. J'ai été diagnostiquée, en fait, il y a une semaine.
Au ciel.
J'ai 42 ans.
OK.
Et je vous écoute depuis tantôt et je me dis, ça y est, je suis un cliché de TDAH. Et je ne suis pas médicamentée encore. En fait, j'ai un parcours assez commun de ce que je vois. Je suis une entrepreneur en série. Là, j'ai 3 ou 4 entreprises, ça roule très bien. J'enseigne aussi en parallèle. Je me surcharge de travail. Une fois ou deux par mois, une bonne crise de larmes parce que c'est trop. Mais dès que j'ai un espace libre, je le comble de façon très impulsive. Là, je dis oui à tout projet qui m'emballe.
Ben oui, la passion.
La passion. Je suis mère de 3 enfants aussi. La vie bouge. Bon, bref, mon fils, un peu comme les autres, l'autre dame avant, mon fils a eu un diagnostic de TDAH il y a environ un an. Et je veux pas, je me suis reconnue là-dedans. Il y a 3 ans, j'ai eu des grandes difficultés entrepreneuriales. Je m'accrochais à un projet qui fonctionnait pas. On m'a diagnostiqué une dépression. On m'a prescrit du citalopram, des médicaments pour dormir parce que je fais de l'insomnie depuis tout le temps. Mais je ne vais pas tellement mieux. Je me suis même ramassée en psychiatrie d'urgence à Louis-Hippolyte Lafontaine un soir où, après des heures d'attente, on m'a dit que je correspondais pas à un cas d'urgence. Mais pour moi, je me sentais en urgence. J'ai consulté une psychiatre qui m'a dit que ça servait à rien d'aller fouiller, étant donné que j'étais une femme professionnelle qui a réussi avec des études universitaires.
Oh! OK.
Il n'y avait aucune raison de savoir.
Ah, vous venez de me En fait, je vous remercie. Je vous ai pas payé, hein. Témoignez, s'il vous plaît. Le TDAH n'est pas du tout incompatible avec une douance, n'est pas du tout incompatible. Écoute, 10 % des doctorants et des maîtrises ne finissent pas leur cours parce qu'ils procrastinent la remise de leur thèse.
Ah, je le crois.
Et c'est des gens qui sont intelligents. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. On a des gens qui sont déficients intellectuels, on a des gens qui sont normaux intellectuels, on a des surdoués et on peut être atteint du TDAH. C'est un trouble neurodéveloppemental du cerveau. C'est la communication avec les amygdales cérébrales, là, pas les amygdales de gorge, et le frontal qui a des connexions qui se font pas de façon standard et harmonieuse. Donc, c'est ça, un TDAH, qu'on arrête de me dire. Et l'insomnie, en passant, là, l'insomnie, mm-hmm. surtout du début de la nuit, de la misère à s'endormir, c'est 3 fois plus fréquent chez les femmes TDAH que chez les autres. Wow. Le sommeil chez le porteur de TDAH a souvent une déficience en même temps en sécrétion de mélatonine. Et comme c'est quelqu'un d'emballé, qu'est-ce qu'il va faire avant de se coucher? Il va rarement se mettre à zéro. Il n'est pas Absolument. Capable de tirer la plug, non. comme on dit.
Non.
Donc, il va encore moins bien dormir. Il y a des outils là-dessus pour aider le sommeil du porteur de TDAH. Mais si vous êtes porteuse de TDAH, ça mérite, en tout cas, de la peine d'avoir la médication. Et l'autre chose, bizarrement, il y a des gens quand même qui vont mieux dormir sous médicaments. Il y en a un tiers qui va, ça ne changera rien, un tiers qui vont dormir un peu moins, un tiers qui vont dormir un peu mieux parce que vous êtes capable d'être focus, de lire un livre puis de partir là-dessus. Alors, merci, Madame Amélie, de votre témoignage et continuez votre démarche. C'est tout à fait erroné, ancien, de penser que quelqu'un qui réussit n'a pas de TDAH.
Okay. J'ai une mini-question sur le, ouais. en fait, sur la médication. Dans mon milieu entrepreneurial, là, mes qualités de TDAH sont hyper valorisées
ouais.
et j'ai peur de perdre cette créativité, cette énergie-là qui me rend complètement malade à d'autres points de vue.
Au lieu d'avoir 12 projets d'avance, vous allez avoir 3 projets probablement mieux réussis parce que vous allez okay. commencer, continuer et finir. Alors que là, quand la passion débarque, la finition s'étiole un peu. Donc, vous allez théoriquement, oui, avoir moins de 24 idées avant le premier café, mais elles risquent d'être meilleures.
Ah, génial. Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie. Bon succès. Alors, on va aller à la pause, bien oui, et on se revoit tout de suite après la pause, 790-9850, dans la région de Montréal, 514, à l'extérieur, 1866 et le 98985. On attend vos références et vos questions, vos demandes.
Jusqu'à 20h, vous écoutez Parlons-nous santé.
La parole est à vous.
Avec la docteure Christiane Laberge.
Au réseau Cogeco.
Alors, on est de retour. Ce soir, on parle du TDAH au féminin en ce mois du TDAH, qui est le mois d'octobre. Maxime, avec nous. Quelles sont les réflexions qui nous arrivent?
TDAH, diagnostiqué seulement par un psy, non médicamenté, mais perte totale de libido depuis plus de 3 ans. Est-ce que c'est un symptôme de TDAH?
Oh boy, la perte de libido, il y a beaucoup de causes. Il y a des causes physiques, il y a des causes mentales, il y a des causes sociales, il y a des causes matrimoniales, il y a des causes de tous ordres. Donc, c'est à investiguer et à regarder pourquoi. Il y a des causes chimiques, là, biochimiques. Alors, c'est un problème. Si c'est arrivé subitement, il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé.
Moi, j'ai un TDAH. Je prends plus de Ritalin depuis le secondaire. Depuis quelque temps, j'ai de l'angoisse. Est-ce que ce serait causé par l'arrêt de Ritalin?
L'angoisse ou l'anxiété, il faut faire un diagnostic différentiel parce que l'angoisse, les gens vont souvent dire c'est presque une crise de panique. C'est un symptôme anxieux. Et oui, l'anxiété peut être présente chez les porteurs de troubles de déficit de l'attention. Par exemple, quand les exigences deviennent plus grandes, quand il y a du chaos et qu'on doit s'adapter, on perd souvent nos méthodes d'adaptation et on peut redevenir symptomatique et de façon non compensée de notre TDAH. Et à ce moment-là, on a besoin de médication. Sauf qu'aujourd'hui, on ne donne plus de Ritalin pour une raison très simple, à moins de grandes exceptions, parce qu'on a des molécules longues actions qui, au lieu de durer 4 heures, vont durer 8, 10, 12, 16 heures, dépendant des besoins de la personne, et vont moduler à la fois les émotions et les comportements pour une période où on en a besoin. Alors qu'avec le Ritalin qui dure 4 heures, ça monte dans le sang, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Par exemple, chez les enfants, à l'heure du dîner, on avait les chicanes, les batailles. À la fin de la classe, on avait la garderie avec encore là des chicanes, des batailles. Alors que quand on a une molécule qui est plus égale dans la journée, on n'a pas ces phénomènes-là.
C'est bon parce que ça nous amène vers une autre question. J'ai 30 ans et j'ai un TDAH diagnostiqué depuis mes 21 ans. Le soir, lorsque mes médicaments ne font plus effet, je coupe la parole sans m'en rendre compte. Je fais les tâches à moitié, j'oublie. Mon conjoint ne comprend pas mon TDAH et ne comprend pas le fonctionnement de mon cerveau et comment réagir. Pourriez-vous lui donner des conseils à comment agir et comprendre?
Oh, merci de m'avoir ouvert la porte de garage double. Alors, vous allez sur un site, deux sites en fait, la Fondation Philippe Laprise. Ils ont actuellement des vidéoconférences. Il y en a une le 12 pour vivre avec quelqu'un qui a un TDAH, mais les activités physiques surtout. Vie familiale, comment on va faire ça. Et on regarde aussi les conjoints. On leur explique ce que c'est que le TDAH, qu'est-ce que ça fait, mais aussi qu'est-ce que ça fait pas. Parce qu'on y en met pas mal sur le dos aussi. Ah, oh, je suis de mauvaise humeur, c'est à cause de mon TDAH. Non, je t'en maudis parce que j'ai eu un ticket. Bon, mais il y a des choses comme ça qu'on veut pas que ça passe sur le dos du TDAH. On veut avoir des outils, par contre, pour moduler cet aspect-là qui est la perte de contrôle des émotions. Ça se gère des émotions. Et on peut diminuer ces éclats-là. Et effectivement, on peut, si on a ce qu'on appelle un rebond après l'arrêt de la médication, on peut avoir des molécules différentes qui sont un petit peu plus longues et qui finissent un peu plus doucement. Il y a des médicaments qui ne donneront pas, on appelle ça un kick-in et un kick-out, un début rapide. Les gens vont dire, ah, moi, à 32 minutes, ça commence à agir. Puis quand ça arrête, là, en 10 minutes, c'est fini. Donc, ils ressentent très bien la cessation et le début. Alors qu'il y a d'autres molécules qui sont plus douces à arrêter, qui sont de plus longue durée. Donc, il faut regarder avec son médecin pour voir s'il y a d'autres molécules qui pourraient l'aider. Mais surtout, aider le conjoint à comprendre Fondation Philippe Laprise ou Attention, déficit, trait d'union, info. Et vous allez voir trucs et astuces pour les gens qui accompagnent le porteur de TDAH.
Et pour les avoir visités, les deux sites sont très, très bien faits.
Très bien faits.
Toute l'information est là. Je rappelle les numéros de téléphone pour vous joindre à la discussion. Montréal, 514-790-9850. Partout au Québec, 1-866-790-9850. Et texto 98985.
On passe à Mme Karine. Bonsoir, Mme Karine.
Bonsoir, ça va bien?
Ça va très bien, vous-même?
Ben oui. Dans le fond, j'écoute depuis tantôt, puis je me reconnais vraiment beaucoup dans tout ce que les gens disent. Moi, dans le fond, ça fait plusieurs années que je me doute, je suis pas diagnostiquée. Mm-hmm. J'en parle à mon médecin, ça fait des années. Mon médecin, je pense qu'elle me pense hypochondriaque parce qu'à chaque fois que j'arrive dans son bureau, dans le fond, c'est moi qui, on dirait, qui trouve les solutions aux problèmes que j'ai au niveau santé. Puis mon fils, dans le fond, il a été diagnostiqué par l'école. Dans le fond, il a été choisi,
aligné par l'école.
Oui, ouais. C'est ça, par le professeur. Fait que mm-hmm. Tout a été passé par l'école. Nous, ça nous a rien coûté. Mais là, ma question, c'est que oui, mon médecin souvent me dit, ben, il faudrait qu'il passe par parce qu'elle, elle veut pas me donner la prescription tant que je suis pas diagnostiquée, malgré que mon fils, lui, a eu le diagnostic il y a 4 ans, il est médicamenté. Puis, j'ai fait plusieurs tests sur Internet, que je me retrouve vraiment dans tout ça. Malgré ça, elle me suggère d'aller voir des psychologues, dans le fond. Mais quand on appelle pour te renseigner, c'est pas tous les psychologues qui font ça, le diagnostic de TDAH, et ça coûte énormément cher, puis il y a des listes d'attente. Et c'est quoi le chemin idéal à prendre pour faire diagnostiquer?
On a parlé de ça à la CADRA. Donc, je vous suggère fortement d'aller sur le site attention-déficit-info.com. C'est le site du docteur Annick Vincent à la clinique Focus. Vous allez avoir des outils, vous allez voir dans formulaire et vous allez voir portfolio adulte. Vous avez des questionnaires très précis à passer. Oui. Et les questionnaires, vous allez avoir un questionnaire de dépistage qui s'appelle l'AS, ASRS, c'est le test de dépistage et non pas de diagnostic pour les adultes. Vous allez avoir à remplir le VISS, W-E-I-S-S, des symptômes, et le VISS, W-E-I-S-S, fonctionnel. OK? Et là-dedans, les questions auxquelles vous allez répondre, parce que ce sont de nombreuses pages, vous allez devoir, avec l'aide ou bien de votre conjoint ou bien de la personne qui vous connaît le mieux, le meilleur ami, la meilleure amie, maman, papa, vous allez le remplir. Oui. Idéalement, ça peut être aussi avec votre employeur si vous avez une bonne relation, parce que plus vous avez le reflet des gens autour de vous, comment ils vous perçoivent, plus vous allez avoir votre diagnostic. On ne se sert en général... Puis, vous allez avoir donc les symptômes du TDAH, mais de l'autre côté, vous allez avoir les conséquences. Vous allez avoir un diagnostic différentiel potentiel. Est-ce que c'est plus l'anxiété qui me rend tout égarouillé? Est-ce que c'est la dépression? Est-ce que c'est un trouble de personnalité? Est-ce que c'est... Donc, on va essayer d'y aller par élimination.
Ça vient que c'est mêlant, moi, parce qu'elle a mis diagnostiqué de l'anxiété due à ma séparation il y a 15 ans. Puis, elle a mis plus à le prendre... Mais là, je l'ai cessé parce que j'ai toujours douté que c'était vraiment que ce n'était pas que ça.
Que ça.
Puis là, quand j'ai eu le diagnostic de mon fils, là, je me suis vraiment reconnue.
Fait qu'avec avec ces documents-là, théoriquement, si vous n'avez pas de troubles d'apprentissage, que vous n'avez pas de difficultés à l'école, que vous étiez bonne dans toutes les matières.
Ben oui, parce que là, je viens de m'inscrire hier, justement, pour finir mon secondaire 5, puis je vais commencer la semaine prochaine, puis je ne sais même pas comment je vais faire pour y arriver, parce que j'arrive pas à lire des romans. Moi, j'oublie la première page.
OK, vous oubliez la première page, mais est-ce que vous vous trompez de mots? Est-ce que vous êtes capable de répéter les mots que vous lisez?
Oui, bien, des fois, j'ai les mots qui se mêlent un peu, mais c'est surtout que je perds le fil facilement.
OK. Quand vous perdez le fil, ça fait plus TDAH. Par contre, si vous n'êtes pas capable de lire à voix haute, que les mots se mélangent, que les lettres se mélangent,
non,
ça, c'est autre chose.
Non, c'est pas
on n'a pas besoin, quand quelqu'un n'a pas de comorbidité, on est sûr qu'il n'y a pas de trouble d'apprentissage, qu'il n'y a pas de trouble complexe, qu'il n'y a pas d'autre chose. Un médecin de famille devrait poser le diagnostic du TDAH. On n'a pas besoin d'un neuropsychologue dans des cas de TDAH simples. Par contre, il y a des gens, comme on parlait tantôt, bipolarité, trouble de personnalité limite, TDAH, c'est tout mêlé. Ça, souvent, on a besoin de quelqu'un d'un peu plus spécialisé pour aller vraiment poser les questionnaires, vraiment prendre le temps d'avoir l'histoire de la personne et surtout le suivi de la personne. Alors, c'est ça dont on a besoin. Fait que malheureusement, oui, un médecin de famille peut prescrire la médication quand vous lui apportez ces documents-là et qu'il apprend ou il demande de l'aide pour comprendre l'interprétation de ces tests-là. Un médecin de famille peut poser et traiter la personne. Alors, merci beaucoup, Mme Karine, et je vous souhaite bonne chance. On va aller à la pause et on se revoit tantôt 790-9850 dans le 514 ou dans le 1866 et 98985, notre texto. On attend vos commentaires.
Des symptômes aux remèdes. La docteure Christiane Laberge aborde avec vous la santé sous tous ses aspects. Parlons-nous santé.
Au réseau Cogeco.
Alors, nous sommes de retour en parlant du TDAH au féminin, retard de diagnostic, compromission plus grande. On écoute Mme Martine. Bonsoir, Mme Martine.
Bonsoir.
Oui.
Alors, moi, je suis pas diagnostiquée. Mais là, de plus en plus, il y a des appels, finalement. On a pas mal dit ce que je voulais dire parce que j'ai pas mal tous les symptômes. C'est-à-dire que j'avais deux emplois. Je suis retournée aux études dans la quarantaine. J'étais une première de classe en passant. Donc, effectivement, je voulais dire que je suis allée lire un peu, finalement, là-dessus. Là, et souvent, je vais vouloir défendre des causes, des individus. J'ai de la difficulté avec les injustices. Je ne sais pas, tu sais, ce que j'avais lu, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que souvent les TDAH sont comme ça, ils sont plus émotifs, plus impulsifs. Ils vont avoir envie de défendre des causes. Quand je vois quelqu'un qui s'était dénigré ou n'importe quoi, j'ai envie de le défendre. Mm-hmm. Je suis vraiment quelqu'un qui défend des causes. J'ai pas mal les mêmes symptômes, c'est-à-dire j'ai de la misère à finir les choses. Je m'ennuie avec les détails rapidement. J'ai toujours plein d'idées dans ma tête. Quand je parle, là, j'ai vu un dessin là-dessus, je m'étais mis à pleurer. c'est un dessin qui démontrait le visage d'une personne normale, puis le visage d'une autre personne, c'est un dessin là, qui est en train de discuter, puis on voyait tout dans sa tête, les ramifications en haut, là, de quand quelqu'un parle. Je fais beaucoup d'apartés. Je sais pas si c'est difficile pour de me suivre, parce que moi, dans ma tête, je sais.
Ça va trop vite.
Oui. Ça va très vite. Ben, j'étais comme une surdouée là, à l'école, moi, vraiment. Là, j'ai. Il y a une autre affaire, je fais des activités physiques très intenses. Là. Je suis dans la cinquantaine, là. Je fais plein d'activités physiques. Puis si j'en fais pas, là, ça monte en dedans. C'est comme s'il y a un volcan qui voulait exploser. Il faut absolument que je fasse d'exercice parce que sinon j'ai failli avoir une séparation avec mon conjoint. C'est vraiment il faut absolument que je bouge. Si j'écoute un film, je vais arrêter sur un détail, puis je vais perdre le reste. Ou si ça bouge trop, je perds le fil parce que trop d'action dans le film.
Je peux pas poser un diagnostic, vous comprenez bien comme ça. Mais mettons que vous avez quand même ces quelques signes. Il y a une madame qui disait à une psychiatre, une amie psychiatre, la madame qui a été traitée relativement récemment, un peu comme vous à votre âge, et qui disait, elle lui demandait, comment tu te sens? Ça fait quoi comme différence? Et la madame disait, les deux gars dans le sous-sol ont arrêté de me parler. Puis là, elle dit, pardon? Elle dit, moi, j'avais toujours deux gars dans le sous-sol qui me parlaient puis qui m'interrompaient tout le temps, puis j'étais pas capable de suivre mes idées. J'avais de la difficulté à rapporter mes idées. Là, ils se parlent entre eux autres puis ils me laissent tranquille. Alors, c'est l'image qu'elle avait du traitement de son TDAH. Est-ce que les idées étaient là? Oui, mais elles étaient plus calmes et elles étaient priorisées quand venait le temps de les sortir. Alors, c'est ça que ça fait. Quand vous dites les injustices accrochées sur quelque chose, oui, mais l'impulsivité d'aller leur donner un coup de poing à sa margoulette, ça, c'est diminué. Mais les gens restent des gens de cause. Ça n'a rien à voir vraiment avec un TDAH. Ce qui a à voir avec le TDAH, c'est d'aller leur sauter dessus parce que vous n'êtes pas d'accord.
Non, c'est ça. Je le sais. Je leur saute pas dessus, mais je leur parler. Là,
oui, oui, c'est ça. Mais de se mêler, d'interrompre la conversation, d'arriver, de faire, tu sais, bon, c'est ça. Ça fait TDAH.
Comme vous le voyez, des fois, je vais couper la parole. Je dors tard aussi. Je vais travailler tard. Je travaille, tu sais, beaucoup.
Tout à fait.
Puis en finissant, je viens de vous dire aussi, mais là, vous l'avez donné, j'avais la question pour les procédures.
Oui.
Moi, j'ai eu un trouble d'adaptation à l'emploi. Oui. Là, j'ai eu un emploi longtemps. Je fais super. Puis un petit emploi. Puis ce que je veux dire, je suis allée voir un psychologue puis mon médecin. Mais eux autres, elle voulait me donner des antidépresseurs. J'ai fait non. Moi, je le sais que c'est pas ça. Puis c'est pas tous les médecins qui vont, qui sont comme à l'affût, on dirait, de ça. Quand on est rendu plus vieux, là.
Oui.
Puis moi, je suis en ménopause aussi, hein. Puis on mélange ça avec ça, tu sais. Parce que c'est pire en passant à la ménopause, hein. Parce qu'on a les fluctuations d'hormones, en tout cas, dans mon corps.
Oui, madame.
Puis en plus d'être déjà de main, je me souviens, j'avais 8 ans, j'avais toujours la main levée pour donner la réponse.
Oui. Puis vous donniez la réponse avant que la question soit finie.
Oui.
Ça fait partie des questions du diagnostic.
Ah, c'est fou, là.
Oui.
Dans ma tête, tout le monde était trop lent.
Oui. Ben, lisez la question.
Tout le monde est toujours trop lent.
Oui, lisez les tests, c'est vraiment très drôle. C'est drôle. On n'en rit pas, là. Je ris pas de vous, là. Mais c'est juste que vous scorez juste à me répondre. Ça fait que c'est pour ça que je vous souhaite de continuer de chercher la ressource qui va pouvoir vous aider. Il y a des gens qui vont pouvoir vous aider. Les médecins s'intéressent de plus en plus au sujet. On donne des formations sur le site de Philippe Lapointe. Il y a des formations validées. Si votre docteur ne connaît pas le TDAH, il y a 3 heures de formation accréditées et on a besoin en moyenne de 50 heures de crédit par année. Un total de 250 par 5 ans. Et vous avez tout de suite, pour votre médecin de famille, allez sur le site, 1 heure égale 1 crédit. Donc, il y a tout de suite 3 crédits à ramasser en connaissant mieux le TDAH. Et comme ça, les patients seront aussi plus contents d'être servis. Alors, merci beaucoup, Mme Martine. Mme Marie-Ève, bonsoir.
Bonsoir. J'avais un paquet de notes, puis durant l'attente, j'ai essayé de réduire mes notes.
Oui, parce donc, que on a tous un beau défaut quand on a un TDAH féminin et qu'on jase.
Oui, c'est ça. C'est que je vais essayer de faire ça très court. Juste pour mettre un petit contexte, à 3 ans, j'étais renvoyée de la garderie. J'épuisais mes parents. Là, j'ai 48 ans actuellement. Donc, j'épuisais mes parents. J'avais des notes excellentes et des bourses d'excellence malgré que je passais mon temps expulsée des classes et dans les corridors. Et je sais pas pourquoi, mais à travers ces années, j'ai développé une efficacité redoutable et une organisation béton. malgré que j'ai une intelligence émotive déficiente et beaucoup de difficultés dans mes relations avec les autres. Donc, quand mon fils a été diagnostiqué TDAH il y a quelques années, et son pédopsychiatre m'a dit, vous savez, c'est héréditaire. Et donc là, je suis allée consulter un neuropsychologue qui m'a réveillée, vous avez pas aidé. Il a, à travers son évaluation, expliqué le fonctionnement de mon cerveau à moi. Et j'ai compris pourquoi, durant mes études universitaires, lorsqu'on utilisait des notes au tableau, des notes par écrit, un écran, tout devenait blanc. J'ai compris ça. Donc là, aujourd'hui, je sais que c'est soit les notes par écrit, ensuite, c'est soit le tableau et je dois compartimenter les choses pour que ça fonctionne. Ensuite, j'ai compris également que je pouvais pas me permettre de mélanger des chiffres et du texte. Et finalement, ce qui a été la découverte la plus majeure pour moi, c'est que au travail, je ne prenais jamais mes pauses. Et ce n'était pas parce que j'avais de la difficulté à me concentrer, mais plutôt à me déconcentrer. Donc, quand j'entrais dans un tableau Excel, je pouvais y passer 6 heures. Et lorsque je ressortais de là, c'était très difficile pour moi de me faire dire, ben là, tu vas aller en pause, tu vas prendre un lunch. Donc, je m'épuisais avant la fin de ma semaine.
C'est ça.
Quand j'ai eu ce diagnostic-là et cette évaluation-là, j'ai demandé une adaptation à mon travail. Et l'adaptation a été faite de telle sorte que maintenant, je travaille 10 heures par jour sur 4 jours. Et cette adaptation-là est de la maison en plus. Donc, elle me permet de me dire, OK, j'ai 10 heures devant moi, donc je rentre pendant 6 heures d'affilée dans mon tableau Excel et je vais avoir le temps d'en voir le bout et de voir là où mon cerveau m'amène. Parce que vous savez, comme les autres personnes disaient, de fil en aiguille, le cerveau nous amène à plein d'endroits.
Absolument.
Et là, avec cette organisation-là qu'on m'offre, je suis capable de gérer mon temps d'une meilleure façon. Et à la limite, si ça me prend 7 heures pour mon tableau Excel, ben je peux prendre une demi-heure de pause puis après ça dire, ben là, je fais mes courriels pour le reste de la journée. Et de cette façon-là, c'est tellement optimal. Ça a changé ma vie. Et ça affecte aussi la quantité de dépression que j'ai pu avoir. J'ai également réalisé que mes dépressions venaient du fait que j'étais, juste le mot anglais, mais c'est overwhelmed,
dépassé. Oui, vous étiez surchargé et dépassé.
Par la quantité de choses que j'entrevoyais, alors qu'aujourd'hui, sachant comment mon cerveau fonctionne, je me dis, OK, une seconde, t'es surchargé, prends une chose à la fois.
C'est ça.
Calme-toi, repose-toi et aborde ces choses de façon méthodique.
Ouais.
Et honnêtement, ça a fait une différence majeure dans ma vie parce que pour moi, les molécules ne fonctionnent pas.
Parfait.
Donc voilà.
Merci beaucoup de votre témoignage. Et c'est vraiment, vous avez tout à fait donné le complément qu'on veut que les gens aient en plus du médicament. Donc, c'est tout à fait ça. Il faut joindre les deux. Et j'ai un petit pit de 14 ans, un adolescent, à qui on a demandé de faire Petit Bambou et la cohérence cardiaque sous forme de respirelax. C'est une méthode de 10 minutes de méditation pleine conscience. Ce que ça a changé, c'est qu'il a obtenu 10 points de plus dans chaque matière. Et je lui disais, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, il dit, maintenant, j'arrive, je lis avant que les autres rentrent, 10 minutes avant. Je me dis, tu lis la question, tu penses à la question et tu réponds à la question. Et c'est avec cette méthode-là, plus sa médication, qui est venue à bout de gérer un peu la désorganisation. Donc, effectivement, les femmes sont organisées, celles qui sont porteuses de TDAH, mais elles sont organisées au prix de grande anxiété et c'est là qu'elles sont diagnostiquées comme anxieuses. Merci, Mme Marie-Ève et Mme Catherine. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui.
Bonsoir.
Je vous écoute.
Oui, écoutez, il y a tellement de beaux témoignages et
ben
d'informations super intéressantes, particulièrement le témoignage qui vient de passer. Ça m'a beaucoup interpellée. Moi, j'ai 41 ans, j'ai été diagnostiquée donc cette année après un arrêt de travail et réalisation que j'avais besoin d'aller chercher mon diagnostic pour mieux me comprendre. Donc, c'est sûr que la connaissance de soi, ça l'a beaucoup aidé. Mais dans la famille, mon mari, mon garçon sont aussi diagnostiqués. Donc, ça a aussi été... j'ai été plusieurs années en déni, mettons, en me disant, non, moi, je suis correcte. J'organise tout le monde, là. Fait que j'ai eu beaucoup de pression sur mes épaules. Et à 41 ans, je me suis rendu compte que j'avais besoin, de m'accepter. Et ça passait par le diagnostic. Puis, à travers tous les témoignages entendus ce soir, tu sais, je me suis retrouvée aussi dans justement ce questionnement des gens autour de moi, que c'est pas méchant, mais pourquoi tu as besoin d'aller faire ton diagnostic? Parce que j'ai besoin de comprendre et de m'accepter pour passer à autre chose après. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui comprennent pas bien pourquoi à 41 ans, tout d'un coup, hein, on décide d'aller chercher le diagnostic. Il y a une question en particulier que j'aurais aimé vous demander par rapport à la médication, à la verge. Moi, j'ai été diagnostiquée par un psychiatre, donc j'ai eu des privilèges, on peut dire comme ça, d'avoir pu financièrement faire ça, parce que c'était un gros investissement.
Un psychiatre, c'est gratuit au Québec, donc?
Non, madame.
Vous avez pris un psychiatre au privé?
Okay. Oui, parce que les psychiatres dans la RAMQ, je pense qu'il y en a de moins en moins, puis les listes d'attente sont très longues, donc je suis allée au privé. Donc, il y a un 3 000 à 4 000
Je vous demanderais de poser votre question parce qu'il nous reste 30 secondes à peu près.
Oui, c'est à propos de la médication. Ouais. Moi, j'essaie le Vivance depuis 4 mois environ, mais au niveau de l'effet, c'est pas tant au niveau de l'attention et du focus. Par contre, c'est dans mon niveau d'énergie. Okay. Donc, on a décidé de rester avec le Vivance et d'essayer. Mais ce que je voulais dire aux autres femmes qui écoutaient particulièrement, c'est la molécule, peut-être qu'elle ne fera pas nécessairement un effet au niveau de l'organisation du cerveau, de l'attention. Mais moi, au niveau de l'énergie, ça m'aide quand même beaucoup à pouvoir garder cette énergie-là constamment durant toute la journée.
OK. Et au niveau affectif, ça doit aussi vous stabiliser un petit peu.
Un petit peu pour me donner aussi un antidépresseur à très faible dose pour contrebalancer avec l'anxiété que causait le Vivance.
Parfait. Donc, merci beaucoup de votre témoignage. Et puis, on s'en va à la pause parce qu'il faut bien. Et on se revoit tantôt, on se reparle tantôt plutôt.
Vous écoutez
Parlons-nous santé. Vos questions, vos préoccupations. La docteur Christiane Laberge vous éclaire.
Au réseau Cogeco.
Alors, de retour, et Maxime a le compte-rendu de vos questions.
Question en rafale.
Oui.
Est-ce qu'il y a un âge maximum pour débuter la médication?
Non. Et les traitements multimodaux non plus.
Est-ce qu'on peut se faire prescrire même si on n'a pas de médecin de famille?
Bien, théoriquement, il faut trouver quelqu'un qui puisse faire le suivi. Donc, si vous avez un médecin au sans rendez-vous, mais qui vous accepte comme médecin de famille pour faire le suivi, oui, parce que ça nécessite un suivi.
Et... allez-y.
Oui. Alors, on parlait des ressources tantôt. Oui. Les ressources, on a PANDA. Les groupes PANDA sont un groupe qui veut dire personne apte à négocier le déficit d'attention. Ce sont des groupes de support. Donc, si vous avez un groupe PANDA, vous en faites partie, vous vous doutez que vous faites du TDAH, ces gens-là connaissent les ressources, qui s'y intéressent, quels sont les médecins qui peuvent faire le diagnostic, etc. Et vous avez la ressource. Il y a des gens qui nous demandaient quels sont les médicaments. Vous pouvez aller sur le site CADDRA. En majuscule, CADRA, c'est la ressource qui va émettre les lignes directrices canadiennes. Vous avez toutes les informations là-dedans. Vous avez les questionnaires dont je vous parlais tantôt. Tout est gratuit. Donc, vous pouvez télécharger, remplir. C'est de toute beauté. Et vous avez une belle fiche avec tous les médicaments qui existent, les doses maximales, la durée, etc.
Est-ce qu'il y a des niveaux d'intensité au niveau du TDAH?
Quand on fait un diagnostic de TDAH, on marque TDAH avec prédominance inattentive, hyperactive ou impulsive, mixte, d'intensité légère, modérée, sévère. Quand allons-nous traiter chimiquement? C'est quand il y a une compromission au niveau social, affectif, intellectuel, c'est-à-dire académique ou professionnel. Si on n'a pas d'impact du tout, que nous, on n'a pas d'impact, mais il y a plein de monde qui n'en ont pas, puis c'est les autres autour qui en ont, bien là, on essaye de moduler parce que effectivement, c'est quelque chose qu'on doit traiter pour aussi travailler en communauté. Donc, on n'est pas tout seul sur notre planète.
Merci, Doc. Ça a été une très bonne émission.
Ben, écoute, merci à tout le monde. Merci à ces femmes qui ont témoigné et on voit bien que le retard de diagnostic, c'est quelque chose de fréquent.